Donc j'ai cru comprendre que, nous disais-tu, chère amie Sandrine,
j'avais une peur fondamentale de... Une peur fondamentale de que tout s'écroule au niveau des croyances.
Exact. Je suis tellement content que tu l'aperçois. Donc il y a une peur que tout ça s'écroule et que...
Qu'il n'y ait plus rien.
Plus rien.
Les fondements, la maison s'écroule.
Oui, qu'il n'y ait plus rien.
C'est pas très confortable quand même.
Ça fait peur, hein. Ah oui, c'est sûr. Et elle se manifeste comment dans le corps, cette peur?
Par un manque de respiration et douleur au niveau du...
Voilà, la douleur au niveau du plexus, c'est la peur. Exact. Ouais. Et tu peux rester avec?
Non, j'ai pas tellement de choix.
Moi aussi. Tu peux essayer de l'éviter, aller courir, arrêter de respirer, mourir de peur. Fuir en courant, mais si tu es juste avec la sensation corporelle, le nœud dans l'estomac, c'est comment? Pas très agréable, d'accord, mais très douloureux?
Non.
Non. Tu peux rester avec, donc.
Mmh.
Reste avec. Simplement en présence de ça. Ah tiens, il y a... constriction dans le ventre.
J'ai l'impression d'avoir une boule de lumière.
Ouais, oui.
Il
y a un poids. Juste la sensation, tu vois, pas les interprétations. Ça fait que ça a du mal à respirer. Constate ça. Ah tiens, en plus, ça a un effet sur la respiration. Ça bloque la respiration. Enfin, ça la restreint. Mais rien de dramatique. Donc, on peut rester avec.
Mais ça met combien de temps à disparaître, cette sensation?
Ah, pensée. J'ai peur que ça dure toujours.
Ah, d'accord.
Okay. Laisse passer à la pensée, ne t'y accroche pas. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Fais copain-copain avec la difficulté à respirer et avec le poids dans le ventre. Explore tout ça. Qu'est-ce qui vient là?
Juste penser.
Lesquels?
Que ce serait mieux si ça n'y était pas.
Ce serait mieux s'il n'y avait pas.
Oui.
Ben oui. Là, on la connaît bien. C'est-à-dire qu'il y a un refus de la sensation telle qu'elle est, de l'expérience telle qu'elle apparaît.
C'est toujours la même chose.
Oui, bien sûr, mais c'est logique, ça tourne en boucle. Et le refus, lui, se manifeste quand même. Ce serait mieux s'il n'y avait pas ça.
C'est juste une pensée.
Il se manifeste comment dans le corps?
Moi, je pense qu'elle crée plus de, encore plus de tension.
Où ça ?
Là.
Dans les épaules, ok.
Puis l'envie de fuir aussi.
L'envie de fuir, ça manifeste où dans le corps ?
Dans le corps, pareil. Mais...
Dans les épaules, l'envie de fuir ?
Oui.
T'es pas un peu dans les mollets ?
Oui.
Non ? Moi, je sens comme des pleurs. Mmh. Mmh, tu sens ça ? Pardon ?
Il n'y a plus de pleurs qui viennent. Il n'y a plus de langue qui ne veut pas venir.
Elle ne veut pas venir, mais tu sens qu'il y a quelque chose comme ça. Sois avec ça. Oublie le reste.
Après, j'ai la sensation de vouloir avec une petite souris puis se cacher. Peut-être. Tu fuir ton regard aussi.
Facile. Qu'est-ce qui se passe dans mon regard ? Donc tu veux fuir l'empathie alors ?
Non. Tu ne veux pas être le centre du monde.
Ouais, ouais. Bah non, surtout pas.
Oui, le centre du cercle.
Ouais, non. C'est trop tard, c'est fait. T'as beau vouloir que ce soit autrement, ça ne sera pas autrement. À moins que tu dises, Gérard, je vais arrêter. Parce que tu es libre d'arrêter si tu veux.
Je vois pas où tu veux revenir en fait.
Au nulle part. Simplement, il se passe quelque chose, il y a un processus qui est là. Mmh. Est-ce qu'on l'accompagne, est-ce qu'on l'accompagne pas ?
Parce qu'après, j'ai mal là.
Hein. Ouais.
J'ai mal partout.
Là, les choses se mélangent si tu veux. Parce qu'on est parti au départ de je voudrais que ce soit comme je veux. On tombe sur la peur que si jamais je lâche, eh ben tout s'effondre. Mmh. Et puis sur les larmes à l'idée que. Je ne sais pas exactement, mais peu importe. Et puis là, maintenant, on est perturbé par ah, mais attention, là, j'occupe la scène et je ne veux pas. Et, on part sur d'autres choses qui sont périphériques par rapport au thème de départ et qui viennent perturber en fait le premier processus. Et en même temps, ça en fait partie. C'est tout un. Hein. C'est lié aux mêmes peurs. C'est lié à la peur d'exister aussi. Tu vois, c'est lié. C'est pour ça que je vais te poser la question spécifiquement. Qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux continuer ?
Je ne suis pas sûre que ça lâche comme ça.
La question n'est pas celle-ci. Ah. La question est, est-ce que tu veux continuer là maintenant avec moi, aussi longtemps que tu en as envie, plus sans le faire, ou est-ce que tu veux arrêter ? Toi pour toi.
Je ne sais pas.
Regarde les autres.
C'est pas eux qui vont me donner une réponse.
Regarde les autres. Est-ce que tu as l'impression qu'il y en a un qui refuse que tu continues ?
Non. Je n'ai pas encore lu dans les pensées.
Bah regarde. Tu peux leur demander si tu veux ça.
Il y a peut-être d'autres histoires qui veulent se...
M'en fous.
Ok, bon, on continue alors.
Tu veux vérifier s'il t'autorise ?
Est-ce que vous m'autorisez ? question, non.
C'est OK? Qui se passe là? Oui. Laisse pleurer. Laissez pas grandir. Accompagne le processus, sois avec. Tu vois, c'est comme on prend un bébé dans les bras, souviens-toi. Épouse tes pleurs. Épouse la partie de toi qui pleure. Qu'est-ce qui pleure, tu sais? Qu'est-ce qui est pleuré? J'aurai jamais ce que je veux.
C'est ça qui est plus.
Proposition. Ça te parle ou pas? L'enfant qui pleure, tu vois. Là, c'est même plus 22 ans le temps. Hein. Je sais pas le mettre en mots, mais ce que je sens, c'est cette détresse profonde qu'on a tous en nous, hein, qui est la perte de, enfin, du bonheur, on pourrait dire. Pas d'un objet matériel.
La peur de perdre le bonheur.
Non, qui est la perte du bonheur. On a tous une souffrance de fond, de base, de première, tu vois, qui est le sentiment d'être séparé.
De sa mère ou de quoi?
De soi-même. Du soi, de ce qu'on est. Alors après, on croit que c'est parce que j'ai pas ma poupée, ou parce que maman est pas là, ou parce que je sais pas quoi. Que la vie est difficile, parce que si, parce que ça, parce qu'on n'a pas ce qu'on veut, etc. Mais au départ, c'est le sentiment de séparation. L'impression que du coup, il manque quelque chose. Que le bonheur me rate. Enfin, tu vois, je ne sais pas comment dire, quoi. On a tous la tristesse. Une tristesse de fond. Et alors après, on va construire des mécanismes pour éviter cette tristesse. On ne va pas se laisser aller, quoi. Puis on va faire tout ce qu'on peut pour y arriver quand même, arriver quelque part, arriver à obtenir quelque chose, arriver à mettre fin à ce sentiment de séparation, ce sentiment de manque. Alors on part en course, en chasse. La chasse à l'homme, la chasse au bien matériel. Puis on croit que quand on aura tout, le mari, les enfants, la voiture, la maison, la télé, grand écran, alors ça, on sera heureux. Mais manque de peau. Ça marche pas. Ça marche un temps. À chaque fois, dès qu'il y a un désir satisfait, il y a un relâchement. Parce qu'en fait, à cet instant-là, le sentiment de séparation disparaît un instant. Et puis il revient. Et à chaque fois, ça repart dans une course à la satisfaction. Sauf que c'est pas, ça rate la cible parce que c'est pas satisfait qu'on veut. C'est bonheur. Et on court après la satisfaction parce que ça apporte un instant de bonheur, l'instant où il y a détente. L'instant où il n'y a plus de recherche. L'instant où il n'y a plus de vécu de séparation. Ça te parle, ça? Et là, dans ce que je perçois là, la solution, c'est d'accepter d'être défaite, complètement défaite. D'accepter d'être complètement triste à en mourir. Parce qu'alors, il y a quelque chose d'autre qui va poindre. C'est un cadeau, cette tristesse. Et si on la refuse, alors on court dans tous les sens, et puis on est énervé, et puis on ne veut pas être envoyé à cette tristesse, et puis on fait plein de trucs dans tous les sens, tu vois. Ça s'agite. Pour pas sentir. Pour pas être avec. Mais cette tristesse, elle a besoin d'être embrassée, d'être enlacée. Est-ce que tu peux la prendre dans les bras? Est-ce que tu as un souvenir d'enfance qui est revenu?
Je suis pas sûre que ce soit un souvenir, c'est des choses qu'on m'a racontées, je crois. Images mentales qui se sont créées sur quelque chose qu'on raconte.
Et si tu prends l'image mentale et que tu la prends dans les bras comme une réalité existentielle?
C'est juste tendu.
Oui. Demande à la tristesse qu'est-ce qu'elle a à te dire, à t'apprendre.
Accepter les choses telles qu'elles sont. Que je suis digne d'amour.
Je suis digne d'amour. Et que?
Les gens qui se sont quittés de moi quand j'étais petite, ils ont aussi rempli.
Bien sûr.
Les erreurs que j'ai faites avec mes enfants, c'est pareil.
C'est Tu as fait du mieux que tu as pu, évidemment. Ouais. Ici, ok. Ouais. Tu sens ça? Ouais. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Il y a un immense. J'ai pas le mot, tu vois. Acquiescement. Tu sens ça? Ouais. Laisse dire oui à l'intérieur. Oui à tout ce qui a pu arriver, même si c'était très douloureux. Et oui à la tristesse. Tu peux pas savoir comme c'est doux. Tu veux bien mettre tes bras comme ça, puis te pencher un petit peu dans un acquiescement. Ressens-le.
Parfait. L'acquiescement.
Dans un acquiescement, oui, dans un acquiescement intérieur, tu vois. Ah oui, intérieur à tout ce que tu viens d'entendre.
C'est le temps.
Oh, moi, je respire mieux. Ouais. Prends ton temps, sois avec toi-même, toi qui es que toi, que cette bulle d'acquiescement intérieur.
C'est un peu comme déposer les armes.
Mais oui. Si tu veux la paix, il va falloir déposer les armes. Hein. C'est comment déposer les armes?
Sans plus léger.
T'en es où là maintenant?
J'ai plus mal.
Plus mal à l'estomac, ça pleure plus. Les tensions sont défaites. T'es plus léger. Un peu sonné.
T'es fatigué.
Ouais. Normal. Prends soin de toi. De quoi tu aurais besoin là maintenant?
Comme le chat.
Oui. Fais-le. Tu as un truc pour qu'elle puisse s'allonger quelque part? Ça te va? Un matelas, ça te va?
Si je la range là-haut, je continue à vous entendre.
Oui, tu peux le mettre là.
Non, mais je n'ai pas besoin de le mettre là.
Bon, on peut.
Il faut la pratiquer. Si je peux juste me l'allonger là, ça suffit.
Ça peut être léger.
Tu peux t'allonger sur les coussins.
Tu peux t'allonger sur les coussins, oui. Il y a plein de coussins. Tiens.
Allez, hop.
soin de toi. Ceux qui ont des choses à dire, c'est le moment. Tu me tiendras au courant?
On a compris plein de choses, je pense. Mais comment on fait pour expliquer ça? On rentre chez nous, on va reprendre le quotidien.
Comment quoi?
Comment on fait fructifier tout ça? Comment on reste avec tout ça dans la vie qui reprend, quoi? Et là, on est un peu dans une parenthèse.
Fais confiance. Fais confiance à la vie. Tu es ce que tu cherches, donc ça ne peut pas te rater. Sinon, tu rentres devant dans une stratégie. Donc là, toi, ce qui s'est passé ici, tu peux dire que c'est une parenthèse. Et en même temps, il y a des changements profonds qui se sont produits pour pas mal d'entre vous. Donc, ces changements, ils vont se manifester. C'est pas possible autrement. Le travail, ce qui se présente. Dans cette douceur, tu vois, être doux avec soi-même, être doux avec, tu vois, avec ce qui arrive, mais pas comme une stratégie. Parce que c'est ce que vous êtes en fond.
Mais c'est quand même quand on a quelque chose, quand on ne sait plus comment réagir.
Quand?
Quand on ne sait plus comment réagir ou quand tu ne vas pas bien. C'est bien de...
Stop. Là, tu as un mot-clé, stop. Pour toi, je ne sais pas, c'est toi que je regarde, donc c'est toi que je m'adresse. Je ne sais pas si ça fonctionnerait pour tout le monde aujourd'hui. Mais là maintenant, je te proposerai stop comme mantra. Puis je reviens à cette douceur, cette tendresse, cet amour pour soi-même. la manière dont on se perd dans tellement de choses, dans toutes nos erreurs, nos bêtises, nos ratages, notre recherche inconsidérée, nos incapacités. L'acquiescement dont on parlait tout à l'heure. Ben là maintenant, je suis encore dans l'énergie de tout à l'heure, donc c'est ce qui sort aussi, tu vois. C'est vrai, mais en même temps, c'est ici maintenant. De vous prendre la tête. Si tu regardes là tout de suite, tu m'as dit comment stop. Il n'y a pas eu une demi-seconde de réflexion. Je ne me suis pas pris la tête pour savoir quelle serait la meilleure réponse à donner. Et ça, c'est vraiment important, juste arrêter, quoi, lâcher prise, pour revenir là-dessus, c'est vraiment ça. Ne faites pas de la vie un problème, et ça ne sera pas un problème. Ne faites pas de ce qui arrive un problème, et ça ne sera pas un problème. Et vous ne pouvez pas le faire ou ne pas le faire. Hein, je veux dire, évidemment, ce que je dis n'a pas tellement de sens. Voilà. Si on le prend au pied de la lettre comme ça, c'est des bêtises. Ça pointe vers quelque chose. Ça pointe vers un espace, vers l'espace que vous êtes. Ça pointe vers un espace de tranquillité, de détente, d'accueil. Exactement ce que vous êtes. Que vous ne pouvez pas ne pas être et que vous ne pouvez pas créer à la demande sur mesure en y pensant, en voulant l'être, etc. Et il se trouve que de dire et répéter en boucle les mêmes choses, stop, regarde, sois avec, etc., il se trouve que, manifestement, il y a quelque chose qui se passe. Ça fonctionne quelque part. Donc voilà, c'est tout. Et je pourrais dire aussi, je ne sais pas. Et je pourrais vous dire en même temps, restez avec je ne sais pas. Parce que dans le je ne sais pas, il y a aussi une vraie détente. Il y a aussi un lâcher prise, il y a aussi une présence. On a l'habitude de croire que dans notre monde, il faut absolument qu'on sache et que c'est très pas bien de ne pas savoir et que qu'est-ce que vont penser les autres si on ne sait pas et si on n'a pas tout compris avant même qu'on nous ait expliqué. Mais la force du je ne sais pas, c'est tellement beau de ne pas savoir. Il y a quelqu'un qui parlait d'être vierge de toute connaissance.
Deux reprises, on s'accrochait avec Sébastien, accroché. Moi, je le dis comme ça. Deux fois de suite, il me demande ça va, comment ça veut dire que c'est perçu.
Que quoi, qu'il est perçu ?
Qu'il y a quelque chose.
Ah bon ? Ça, c'est une pensée.
Je regarde ça depuis un moment et c'est pas clair, quoi.
Qu'est-ce qui est pas clair ?
Ce qui se passe. Il y a de la colère, il y a un va te faire foutre. En même temps, on s'arrive ici. Je me dis, mais qu'est-ce qui a l'homme?
Le pauvre Sébastien tombe des nues. Il est juste en train de faire bisous à Stéphanie.
Non, il refile sa vaisselle. Quand il dit un truc que je comprends pas, je demande deux fois. Il fait à tout le monde, il parle très bien, sauf à moi. Quoi? Quoi? Il faut bien me comprendre que je comprends mais c'est pas quoi, c'est autre chose. Mais c'est ressenti.
Et extrêmement colère.
Alors en même temps, ça se marre. Il y a un côté qui se marre, puis un côté qui dit bah, je t'emmerde.
Moi, ça me stresse quand tu dis ça.
Wow, regarde-le. Je t'en veux.
Voilà, je veux pas.
Mais surtout, Denis, tu es dans tes pensées et tu y crois. Et c'est intéressant qu'en même temps, ça se marre. C'est-à-dire que quelque part, ça sait que c'est un coup monté, que ça le maintient. J'aimerais bien savoir pourquoi. Non, j'en veux plus. En tout cas, reste avec ça au minimum.
Il y a plein de...
Ça croit à des pensées, ça sait que c'est faux, et ça continue à croire dans les pensées et à la colère qu'elles créent. Et ça joue comme si ça croyait dans les pensées, dans la colère que ça crée, alors que c'est très bien vu que c'est faux. Si ça, c'est pas un coup monté. C'est s'effondrer si c'est su comme faux, comme vu comme faux.
Mais c'est vu que partiellement, il y en a qui croient.
Oh oui. Et tu veux me faire croire ça? Si ça rigole, c'est que c'est vu comme faux.
Ça rigole aussi peut-être.
Non, je crois pas. Je le connais. Je le vois. Je tiens à ma réaction. Peut-être. Je veux qu'il sache. Je veux qu'il entende. Je veux qu'il change. Qu'il soit autrement que comme il est. Il y a des trucs de cet ordre-là, là, derrière. Tout le monde sache comme je suis malheureux.
Non, mais ça, je fais déjà un effort, moi je me serais barré. Ah, le mode par défaut, c'est ça. Je dis rien.
Mais... Il ne me reconnaît pas quand il me laisse faire ça. Je veux qu'il me reconnaisse.
Je sais pas, j'étais pas là. trouve très intéressant cette double polarité où d'un côté tu dis mais qui va se faire voir, puis quand tu le regardes tu dis qu'est-ce que c'est qui te stresse avec une douceur.
Parce que dans ton cas il y avait la douceur, donc là du coup la colère était pas là.
Ah bon? Et maintenant ça comment? Ta colère, tout ça, c'est où?
Il y a un thème de non-respect de soi, je crois.
Bah, c'est toi qui te respectes pas dans cette histoire. Mm-hmm. C'est toi qui lui dis pas un coup, je suis blessé là, j'ai l'impression que tu me réponds à côté. Tu me réponds pas, tu me traites pas comme les autres, etc. Avec douceur, tendresse.
Mm-hmm. Oui, c'est pas l'habitude.
Ah bah oui, ça oui. Plutôt être blessé, être en colère, à se barrer en traitant l'autre de con.
C'est ce que j'appelle le respect.
C'est tout sauf du respect, ça.
Bah, c'est un conditionnement.
Bah, bien sûr, c'est des conditionnements.
Non, mais je comprends, il y a un jeu de fertile.
Ah oui. Une manipulation de base, profonde.
Alors, il y a le jeu, je comprends ma place.
Il y a le jeu, si je me barre, on va venir me chercher. Il manque de peau, ça marche pas. Mais ça n'empêche pas que ça se joue quand même. Il suffit que ça soit joué une fois dans l'enfance et que ça ait marché pour que ça puisse devenir un réflexe conditionné. Alors.
Il continue à jouer. J'ai déjà entendu ça.
Ben, ça continue à jouer parce que tu as un grand plaisir à le jouer.
Parce que je le vois pas.
Ouais, tu parles, quand ça rigole, c'est pas que c'est pour lui.
Alors là, il y a le rire qui est perçu, mais c'est pas compris.
Mais si ça reste avec le rire, au lieu de rester avec je suis blessé et en colère et j'ai envie de me barrer.
Oui, c'est mieux, mais ça veut dire que le truc n'est pas déconstruit parce qu'il y a le truc de la victime qui reste là.
Et si c'est le rire qui allait déconstruire tout ça?
Ah oui, c'est bien.
Si c'était d'arrêter d'y croire qu'elle allait le déconstruire. Parce que quand tu regardes le côté victime, forcément tu le reconstruis. Tu l'alimentes. Mais surtout, il y a un plaisir à l'alimenter. Envie de jouer. Mais ça, c'est des concepts, c'est des mots. L'enfant, il n'a pas ces mots-là, il s'en fout, il veut jouer. Il a l'envie de jouer. Que serait une vie dans laquelle je ne jouerai plus? Touché. Pas couler, mais touché.
Ah, c'est bien. Trouve le prochain bouton.
Ah voilà, c'est à moi de trouver.
Ah bah,
va chier. Aussi, bah. Non mais attends, il n'y a pas que toi qui sais dire ces mots-là. Denis, tu aimes jouer comme tous les enfants. Il va bien falloir un jour que tu le reconnaisses que tu aimes jouer. À quoi tu joues dans la vie ? Qui t'amuse ?
Ben, moi je suis un mec sérieux.
Ah,
les femmes ça m'amuse. Ouais, pas tout le temps je crois, mais bon. Il y a un côté, oui.
Jouer à la victime, ça t'amuse. Jouer à pauvre de moi, ça t'amuse. Jouer à pas savoir, à être perdu, à hésiter, j'ai pas les mots, ça t'amuse. Ça fait drôlement rire ce que je dis.
Ça n'a pas l'air de faire rire quand même.
Pardon ?
Ça n'a pas l'air de faire rire en tout cas.
Bon, attends, il joue bien. Attends, c'est quand tu joues des jeux comme ça, si tu te mets à rigoler quand on te les dénonce, ils peuvent pas fonctionner. Alors forcément, tu dois pas rire.
C'est identifié à une pensée.
J'ai pas compris.
C'est identifié à une pensée de dire.
On ne s'identifie pas. Je sais pas si on peut dire on s'identifie en pensée. Il y a des pensées crues.
Vous avez quelqu'un qui s'arrive.
Bouf. Si ça arrivait vraiment à quelqu'un, ça rigolerait pas.
Non, ok, la partie qui rigole, nous, on voit que c'est un
mec. Ah, bah oui.
Pourquoi elle n'est pas partout, je
crois. Nénéna, pourquoi, nénéna ? Je comprends pas. Enlève le pourquoi, je comprends pas. Elle reste avec le rire. Il n'y a rien à comprendre. Ça joue. Si, lorsqu'on est petit, on ne peut pas jouer à des jeux d'enfants naturels et sains, on joue des jeux tordus, d'enfants. Âge mental, moyen, 3 ans. C'est tout. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a en Orléans ?
Ouais, je passe à l'âge mental, 3 ans.
Ouais.
Mon mari adore jouer avec les extraterrestres sur l'Orléans.
Bon, au moins, ça, c'est un jeu.
Alors,
c'est un jeu et tout le monde sait que c'est un jeu. Eh ben oui. Ben c'est super.
C'est extraterrestre. Donc on partage pas la même chose.
Ben oui, mais c'est pas grave. Au moins, ils jouent.
Oui.
Ça fait mal à personne, tu vois.
Non.
C'est pas un jeu tordu, quoi.
Donc les hommes laissent des enfants.
Mais les femmes aussi.
Il faut que quelqu'un s'occupe des enfants, quoi.
Donc elle joue à s'occuper des enfants. Elle joue à la maman grandeur nature. Les femmes aussi jouent. Le truc, c'est que, comme je disais, je ne sais plus quand, aujourd'hui, à un moment donné, on joue à être sérieux. Et pour bien jouer à être sérieux, il faut oublier qu'on joue. Voilà, c'est fichu, l'âge de raison.
C'est la fin des haricots.
On a l'impression que c'est pour de vrai.
Oui. Après, on croit que c'est vrai. C'est pas un jeu. Oui.
Et puis après, ça engendre des émotions négatives.
Oui.
Donc c'est encore plus fort.
Oui.
Et on
touche bien une dedans. Et on en rajoute une couche. Ça va, Serge ?
Très bien.
Les pensées se déposent.
Simplement, je suis simplement là, j'écoute, j'entends. Voilà. Ce qui me traversait, c'était le fait d'être simplement là, même si rien ne se dit, ça me faisait du bien. Voilà. Que cet état-là, enfin, je peux le faire n'importe où finalement.
À n'importe quel moment, même si c'est qu'une demi-seconde.
Ouais. Et en même temps, une pensée qui était si j'ai plus des carottes, bah, j'ai plus des carottes, et c'est vraiment le regard que je porte en faisant ça.
Exact.
Et que ça me fait chier, que finalement.
Donc c'est tranquille. Ouais.
Voilà. Après, je peux comprendre que quand c'est répétitif, qu'est-ce qui fait que ça devient désagréable, c'est que il y a une part de nous qui aimerait bien faire autre chose, s'occuper de soi, prendre du temps pour soi, marre des contraintes. Et en même temps, c'est vécu comme une contrainte parce que il y a une part de nous qui dit j'aimerais bien être ailleurs et pas être là. Quoi.
Voilà, c'est la pensée, c'est pénible.
Voilà.
Il y en a assez. Il faudrait faire autre chose. Voilà. Il y a des moments où il y a besoin de bouger dans le corps et de faire autre chose. Hein. Mais il y a des moments où, en fait, c'est juste une pensée. Comme l'ennui. L'ennui, c'est une pensée. Si vous regardez les sensations corporelles de l'ennui, déjà, vous vous ennuyez plus. Et ensuite, vous verrez que c'est une construction. C'est une pensée, l'ennui. C'est juste une pensée. La solitude, c'est une pensée.
Mais ça rejoint un peu l'idée de projeter que si j'étais ailleurs ou si je faisais autre chose, je serais mieux.
Oui.
Après, c'est aussi accepter que des fois, je ne suis pas dans l'acceptation de
exact. Cette là, quoi. Exact.
Il y a c'est ça qui fait qu'à un moment donné, il y a une tension, c'est effectivement. Si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'arrive ou que je fais et que j'aimerais faire autre chose, c'est sûr que je peux passer ma vie et traverser ma vie.
Oui.
À me plaindre de.
Exact. Il y a refus de ce qui se présente, de ce qui arrive tel que ça arrive.
Voilà.
Et si le refus est vu pour ce qu'il est, et accepté, accueilli, sans personne pour le faire, ça disparaît.
Et en même temps, tout l'environnement nous invite à l'extraordinaire, à zapper, à passer à autre chose, et à vivre l'instant. Donc, du coup, c'est sûr que ça crée de la frustration, et d'une manière ou d'une autre, c'est un conditionnement qui est entretenu, puisque c'est.
Oui.
Voilà, et ce conditionnement, bah, il sert le modèle de société dans lequel on est maintenant.
Oui.
C'est sûr que ce n'est pas toujours évident d'accepter qu'une vie puisse être, entre guillemets, toute banale, toute simple, le fait de quotidien, de. Voilà. Et pourtant, c'est souvent, la plupart du temps, ce qui se passe, quoi.
Mais surtout dans cet ordinaire, dans ce banal, il y a la joie, il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a le rire, il y a la sérénité, il y a l'amour. J'allais oublier l'amour. C'est dingue, hein ? Incroyable, hein ? C'est tellement là que tu n'y penses même plus. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, c'est cet ordinaire même. Il n'y a pas besoin de tout ça. Je dis pas qu'il faut pas aller voir les films, qu'il faut pas faire des voyages autour du monde, je sais pas quoi, peu importe. Pourquoi pas ? Mais arrêtez de croire que ça va porter le bonheur et qu'on a besoin de ça pour être heureux, etc. Il n'y a pas de chanson qui dit aussi peu pour être heureux.
C'est
du
Vivre
la jungle.
Dan Millman, il n'y a pas de moment ordinaire.
Il n'y a pas de moment ordinaire.
Ouais.
Ouais. Moi je dis. Oui, c'est vrai, en se disant que tout instant est une création complètement, c'est tout instant est neuf, une création, oui.
Il le disait comme ça.
Bien sûr. Et en même temps, j'aime bien parler de cet ordinaire, parce que si on attend un extraordinaire, on va passer à côté de l'essentiel. Voilà.
Pourtant, c'est fort ça. C'est fort comme idée. Moi, je peux dire que je l'ai portée en moi jusqu'à maintenant, quoi.
Quelle idée ?
Que pour être heureux, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Ben non, c'est ce que tu es.
Ben oui. Je commence à l'entrevoir.
Oui, mais c'est important ça, parce que c'est vraiment un piège. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est tellement difficile de réaliser l'absence d'individus séparés. Parce qu'on en attend tellement que même quand c'est réalisé, on ne le voit pas, on le jette. C'est un après-coup. Que, vous voyez, je ne sais pas si vous le ressentez, mais là-dessus, je parlais d'amour, toi, j'avais oublié. Et quand même, je veux dire, l'amour, il est là tout le temps, quoi. Regardez-moi vivre. Je veux dire, quand je prends les gens dans mes bras, il y a vraiment de l'amour, même si je ne les ai jamais vus. Tu vois, l'amour, il est complètement là, mais il n'est pas expérimenté comme lors des grandes expériences mystiques que j'ai pu vivre. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel, beaucoup plus ordinaire. Et en même temps, c'est constant. C'est constant. Même si je me fâche, j'aime la personne contre qui je me fâche. C'est marrant, ça, à voir. Et je n'aurais pas du tout, de toute façon, trois secondes après, j'ai oublié. D'abord, je rigole, puis après, j'oublie. Donc, c'est pas... Et c'est surprenant, j'en parle parce que c'est surprenant. Si jamais vous avez vécu d'expériences mystiques, alors vous savez ce que c'est que l'amour, comme ça, là. Ben non, c'est tout... En fait, à partir du moment, je pense que... Enfin, ce qui me vient là à l'esprit, c'est que si... Puisque c'est ce que l'on est, à partir du moment où il y a... où ça colle à ce que l'on est, bah, ça devient un ordinaire. Ça devient quelque chose de tranquille, de naturel, de... Tu vois, presque... Mais c'est pas ce que vous vivez. Ah bon ? Ah, c'est bizarre, tu vois, c'est un... Donc ça n'est même pas à l'esprit d'étiqueter ça. Amour, joie, paix, ou je sais pas quoi. Si on en parle, s'il y a besoin de le mettre en mots, on va le mettre en mots, on va dire ça. Mais sinon, c'est juste... Bah, c'est juste qu'elle a, quoi.
Là, c'est pareil, le pic et le valet. Pic, les moments mystiques.
Qui dit ça ?
Vous de la sardine.
Ah oui. Ouais, mais ça, c'est, on parle d'expérience mystique, là, d'expérience.
Oui, des pics et puis la vie.
Pic, expérience.
Les jours, c'est la valet.
Oui. Oui. Mais ça, ce ne sont que des expériences. Ce qui est frappant, c'est que cela au sein de quoi apparaît toute expérience demeure. Et demeure inchangé.
Je regardais tout à l'heure, il y a ce truc qui venait, c'était comme ça, j'ai dit talent de maman. Si je vais pas bien.
Si je vais pas bien, j'ai les talents de maman. Mmh. Oui.
Mais je sais pas si ça suffit à démentir.
Mais
Bien sûr, il y a l'idée, si je fais une scène, je vais obtenir ce que je veux. Mais c'est pas parce que ça marche pas que l'enfant n'a pas mis ça en place. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'un enfant veut quelque chose, d'abord, bon, je vais le dire à la manière existentielle, hein, psychothérapeutique, d'abord, il va monter un coup. Et au moment où il pense au coup, au tour qu'il va jouer, il a le grand plaisir, ouais, comme ça, je vais avoir ce que je veux. Ce que Freud, je crois que c'est Freud, appelait le bénéfice primaire. Et on a complètement oublié cette histoire de bénéfice primaire. Même Freud n'a pas fait grand-chose. Et en fait, c'est absolument essentiel. La plupart de nos souffrances, d'un point de vue existentiel, sont liées à ce bénéfice primaire, au plaisir ressenti, à l'idée du coup qu'on va jouer. Mais comme des enfants qui rigolent déjà à l'avance avant d'aller appuyer sur toutes les sonnettes des voisins. Tu vois ? Si on va laisser appuyer sur les sonnettes des voisins, ils sont déjà tout contents. On le sait, quoi. Tu vois ? Ça, on le sait très bien. Et c'est ça. Ensuite, l'enfant joue son tour. Par exemple, il va faire une grande scène dans une grande surface, de préférence quand il y a plein de monde, parce qu'il veut le quoi ? Il monte au pied rouge. D'accord ? Et là, il est en train de jouer. D'abord, il pense, je vais faire une scène dans le magasin, j'aurai mon camion. Maman, elle va céder. Elle ne va pas aimer que je fasse ça dans le magasin. Parce que les enfants savent très bien ce qui se passe. Hein. Alors, il fait sa scène. Il se roule par terre et il hurle, il crie, il tape des pieds, des mains et tout. Et maman, quelle est sa réaction ? Si maman, elle s'en va en passant son chemin, bon, bah, ce tour-là, il ne marche pas. Il va arrêter. Il va essayer quand même, il va continuer. Tout. Mais si jamais par hasard, une seule fois dans sa vie, maman dit arrête, arrête, je te prends le camion poupée rouge, tu vois, et on y va. Le gamin, il intègre, ce tour, il fonctionne. Faire des crises fonctionne. Alors, c'est camion poupée rouge, c'est les câlins, ou c'est la poupée, ou c'est peu importe. Hein. Peu importe. Il suffit que ça fonctionne une fois, une à trois fois, pour qu'un réflexe conditionné se mette en place. C'est pas beaucoup, hein. Et à partir du moment où ça a fonctionné une fois, ça peut déjà être un réflexe conditionné. Ça veut dire que la fois d'après, quand l'enfant voudra quelque chose, tong, il va remettre le système en route, il va faire la crise. Ça va devenir un automatisme, un conditionnement. Et si un jour ça ne marche plus, parce que maman, elle voit bien que ça suffit maintenant, à chaque fois, il a ce qu'il veut et j'en veux plus, d'abord, elle ne va pas dire au gamin, maintenant ça suffit. Ou bien elle va lui dire une fois, puis elle va quand même céder, puis du coup, elle intégrera que maman, quand elle dit ça suffit, c'est pas vrai. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il va jouer des trucs comme ça, et de toute façon, pour peu qu'elle dise pas au gamin, très clairement, j'ai compris que tu me faisais des crises pour obtenir ce que je veux, maintenant je ne céderai plus jamais. À moins que ce soit très clairement énoncé, que le gamin l'entende, ça fait deux conditions, le tour va continuer à jouer. Mais l'enfant, il va se dire, zut, ça marche pas, c'est parce que je l'ai pas assez bien joué, pas assez fort. Il va pas se dire, ça marche plus, faut que j'arrête. Il va se dire, c'est que je ne l'ai pas assez bien joué. Alors, il va en rajouter une couche. Et une couche. Et une couche. Tu vois ? Exactement. C'est ce qui se passe pour tout le monde, tout le temps. Puis, ça ne marche plus depuis des années. Et on arrive à 50 ans, ou à je ne sais pas quel âge, et on continue à faire des crises, et à se rouler par terre, métaphoriquement parlant. C'est les gens qui, au travail, poussent des gueulantes contre leurs employés parce qu'ils ne sont pas... Tu vois, parce que... pour obtenir ce qu'ils veulent.
Ouais. Ce que je vois par exemple, tout à l'heure, il y a un moment, il y a une décision des victimes. Une décision dans cette situation.
Il y a un jeu qui se met en place. Je vais, ah ouais, je vais jouer à ma victime, comme ça j'aurai ce que je veux. Ou car la maman, l'attention de Sébastien, ou peu importe. Et même s'il est vu que ça ne marche pas, ça continue parce que c'est conditionné. C'est un réflexe conditionné. Voilà. Alors, comme vous, la victime, ça ne suffit pas, on se fâche. Et comme se fâcher, ça ne suffit pas, on s'en va. C'est juste le même tour, jouer plus fort. Et dans l'esprit de l'enfant, c'est si je joue plus fort, j'aurai ce que je veux. C'est-à-dire, maman va venir me chercher et me donner le câlin que je voulais. Sauf que ça marche pas. Et peut-être ça marche avec maman, une fois ou l'autre. Mais dans l'absolu, ça marche pas et pas avec les autres. Et on joue tous des tours pendables comme ça. C'est un jeu. Sur celui-là, je crois, oui. Mais parce que c'est un grand plaisir caché. Alors comment ça se démonte? Ça se démonte en retrouvant le plaisir caché. Le jour où on trouve le plaisir caché, originel, le bénéfice primaire, le plaisir primaire, à l'idée de monter le coup, là on explose de rire et on se dit mais ça n'a pas de sens. On réalise, ça n'a pas de sens. Bien sûr, âge mental 3 ans en moyenne. Je veux dire, dès qu'on a passé la quinzaine, on sait que ça n'a pas de sens, quoi. Par rapport à ces tours. C'est une façon de les aborder. Psycho, émotionnel et existentiel. Bah, je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de genre de choses ici aujourd'hui. Mmh.
Ça rejoint un peu la purification de l'esprit qu'on fait dans le bouddhisme. En fait, d'après ce que je comprends, ça veut dire que certaines personnes auraient besoin de faire, par exemple, psychothérapie avant de réaliser un certain nombre de choses.
Non, je ne crois pas ça. Je crois pas ça,
parce que dans le bouddhisme tibétain, c'est un peu ce qu'on nous fait croire, entre guillemets, qu'il faut purifier l'esprit.
C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à ça, c'est que il se trouve que cette purification n'est pas inutile, en ce sens que c'est une bonne préparation et ça aide aussi à la réalisation et à ce que la réalisation se passe plus en douceur, souvent. Mmh. Et ce qu'il y a aussi, c'est que lors de la vraie grande réalisation, où tout explose, il est réalisé, que tout est réalisé de façon définitive et constante, que tout cela est illusoire, et pas seulement vu, et que je suis cela qui est, au sein duquel l'univers entier apparaît, d'abord, si jamais il y a peu un nettoyage avant, c'est possible effectivement que ça crame un peu parce qu'il y a des scories qui vont brûler. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un moment de grande difficulté. Et surtout, après, si tu veux, et parfois même avec la simple réalisation qu'il n'y a pas d'individus séparés, après, beaucoup de gens ne sont tellement pas intéressés par les jeux qui se jouent, qu'ils ne vont pas porter le regard dessus, ou qu'ils n'ont pas les outils pour le porter. Et que donc, ça va continuer à jouer jusqu'à la fin de leur jour. Je crois seulement que c'est pour ça qu'on a parlé de purification avant, et de choses comme ça.
Parce que la plupart des êtres ordinaires ont quand même besoin de faire un certain nettoyage des pots de sauce qu'on a devant les yeux.
Non, je ne sais rien, je ne suis pas du tout certain de ça, je ne crois pas. En tout cas, pour ce qui concerne la réalisation de l'absence d'individus séparés, non.
Pourtant, on s'identifie tellement fortement à ces pensées que ça va bien à l'encontre de réaliser qu'on est un individu séparé.
Oui, mais c'est juste une croyance parmi d'autres.
Oui, mais si
c'est une croyance centrale.
Si personne ne te les montre, tes névroses, tu t'en rends pas compte.
Ah oui, ça peut continuer.
Ça peut continuer.
Jusqu'à la fin de tes jours. Oui. Même s'il y a réalisation qu'il n'y a pas d'individu séparé. Ouais. S'il n'y a pas l'habitude de poser le regard, tu vois, évidemment. Puis ça sauve même moi, il y a des choses que je ne vois pas du tout. Hein. Probablement. Ça colle encore à certains endroits et je ne le vois pas. Mmh. Bon. Tant que ça est encore perturbé. Tant que ce n'est pas signalé d'une manière ou d'une autre, ça continue. En même temps, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, si toi, c'est ça qu'il y a aussi de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème.
Ben, il n'y a pas de problème. Enfin, il y a, s'il n'y aura jamais de réalisation, dans ce cas-là.
Il y a déjà réalisation.
Ah, mais s'il n'y a pas réalisation.
Ça ne change rien. C'est autre chose. C'est-à-dire que tout ce qu'on va nettoyer, c'est simplement des croyances périphériques à la croyance en l'idée d'un moi qui vont s'effondrer.
Au fur et à mesure que les choses s'écroulent, tu t'approches du but. En fait.
Ben, pourquoi parler directement du but?
Ah oui, c'est pas donné forcément tout le monde.
Où est-ce que c'est écrit?
Ah non, c'est une croyance. Que, enfin, c'est...
On peut s'attaquer directement à la croyance racine, et d'ailleurs c'est ce que préconisait Nisargadatta Maharaj et Maharamanamarji par exemple, de s'attaquer directement à la racine.
On n'est pas tout seul.
Penser je pour Ramana et revenir tout le temps à je suis pour Nisargadatta, tu disais.
Bah, pas tout seul.
Bah si, Nisargadatta il a vu son maître une fois.
Oui, d'accord, mais tout le monde n'est pas Nisargadatta.
Ah bon? Où est-ce que c'est écrit?
Non, c'est pas écrit, mais...
Nisargadatta, c'était jamais qu'un vendeur de petites cigarettes en marchant ambulant dans la rue, quoi. Mm-hmm. Tu vas pas me faire croire que t'as pas son niveau intellectuel. Sa compréhension, c'est juste la ferme détermination qu'il a eue. Ce qu'il dit, c'est « Dès que j'avais un moment de libre, je faisais ce que mon maître m'avait dit de faire. Je revenais à... au sentiment je suis, à la pensée je suis. Oui. Et je chassais tout le reste. Donc, et il m'a fallu seulement 3 ans pour réaliser.
Oui, d'accord. Il n'a pas réalisé tout seul. Il a quand même été aidé. Enfin, il veut dire, il y a eu un facteur déclenchant.
Oui, mais maintenant il a dit, il a écrit comment il fallait faire.
D'accord.
Tu l'as le facteur déclenchant.
Il faut juste se souvenir de l'homme.
Oui, après chacun sa voix par rapport à ça, mais... Arrêtez de croire qu'il faut je sais pas quoi. C'est banal, c'est simple, c'est ordinaire. Oui, c'est juste une croyance qui s'effondre.
On voit que la croyance de.
Il faut se souvenir de.
Tu ne peux pas le faire.
Le détachement est... il n'est pas automatique au début.
Non.
Si personne
ne peut. Revenir.
Il faut y revenir.
Y revenir.
Jusqu'à ce qu'il oui. soit tout le temps là.
Qu'est-ce que ça se réalise? Il y a un changement qui se fait, il y a un saut qui se prend, enfin une, quelque chose qui s'effondre, on pourrait dire.
En même temps, Gérard, j'entends deux choses. Là, j'entends effectivement qu'il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit et à un moment donné, ça survient.
C'est pas ce que je dis.
Oui, je sais. En tous les cas, tu dis que c'est naturel, qu'on a déjà tout en nous, que c'est là, et que tout le reste, ce sont des croyances. Et que cet effondrement de la croyance, des pensées crues, elle est simple. Et en même temps, moi, ça c'est la première chose que j'entends. La deuxième, c'est que c'est pas parce qu'il y a eu éveil que... Enfin, il y a des auteurs qui disent, après l'éveil, la grande blessure. Donc, décristallisation, nettoyage.
Oui, mais ce qui ne s'est pas fait avant peut se faire après, évidemment. Ouais,
voilà. Après, bon, il y a bien une différence, effectivement, entre l'éveil et la réalisation de ce que tu appelles la réalisation.
Oui, on peut distinguer les choses de cet ordre-là. Oui, non, attends. Là.
Sinon,
alors,
sinon...
attends, on va reprendre les choses une à une. D'abord, c'est pas l'effondrement de la croyance qui est facile, qui est simple et naturel. C'est la réalité, la nature de la réalité, ce que l'on est. C'est ordinaire, simple, naturel. D'accord ? L'effondrement de la croyance, c'est ce qu'on coltine. Ensuite, je ne dis pas ne rien faire, j'insiste là-dessus. Revenir à ce qui est, porter le regard sur ce qui arrive, être avec ce qui se passe, c'est pas ne rien faire. Et ça n'est pas non plus une stratégie. Voilà, c'est ça qui est difficile à comprendre. C'est que ce n'est pas à faire comme une stratégie dans le but de. C'est ce que vous êtes. Et ce que tout ce que je fais, c'est bon, bon, taper sur la cloche pour que ça résonne. Et que cette mouvance que l'on est se manifeste. C'est pas des injonctions. Ce que je disais, je ne sais plus quand, lorsque Ramana Maharshi dit « Be as you are », sois ce que tu es, c'est pas une injonction, c'est un rappel de ce qui est à ce qui est. Et quand je dis regarde, c'est un rappel de, du regard au regard, de ce qui est à ce qui est. Et après, j'ai oublié ce qu'il y avait encore à dire.
Après, je parlais de l'éveil et la rendez ici. Mais...
Oui. Après, évidemment, l'éveil, c'est, enfin, la réalisation, c'est un commencement, c'est pas une fin. Beaucoup, on croit que c'est une fin, c'est-à-dire que ça y est, j'ai atteint le nirvana pour toujours. C'est faux. Ça, c'est faux. Et évidemment que tout ce qui n'a pas été nettoyé avant, s'il y a l'outil ou s'il y a le regard qui se porte sur ce qui est encore là après, évidemment que ça va lessiver. Évidemment que le regard va se porter dessus. Évidemment que ça va s'effondrer, que les croyances vont s'effondrer, qu'il y a un travail qui se fait. Et évidemment que ça peut passer par même de la souffrance. Ça peut arriver qu'il y ait de la souffrance. Simplement, à ce moment-là, il y a interpellation. À ce moment-là, le regard presque ne peut pas ne pas se poser dessus parce que ça souffre. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Tu vois, c'est l'inverse. Si ça souffre, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas vu. C'est qu'il y a une pensée crue. C'est qu'il se passe quelque chose. Donc le regard va se porter dessus. Et dès que le regard, dès que la pensée crue est perçue, et dès qu'elle est vue comme fausse, ça s'effondre dans un rire au moins intérieur, et la souffrance s'effondre avec tout, s'effondre le système, souffrance s'effondre, l'histoire s'effondre.
Ah, l'image qui me vient, c'est à la foire, tu sais, les stands. Il y avait des boîtes de conserve, et quand tu dégommes la boîte centrale, tu as toutes les boîtes qui dégomment. Et la pensée racine, la croyance de base, est-ce qu'elle ne pourrait pas être identique pour tout le monde?
C'est la pensée de séparation. C'est l'idée, non. La pensée, c'est l'idée de séparation, elle est liée à l'idée d'un moi. C'est la même chose, hein, c'est la même.
C'est ça. Et est-ce que, justement, une fois que tu dégommes cette croyance de base, tu dégommes pas toutes les autres croyances?
Non. La preuve, c'est qu'il y en a plein d'autres qui tiennent encore après.
Oui, mais ça te permet d'élargir la vision, de voir
plus la vision s'élargit, hein, et surtout les autres croyances ne sont plus tenues
elles n'adhèrent plus de la même façon.
Parce que lorsque il y a une histoire personnelle jugée, enfin étiquetée personnelle qui se joue, quelle qu'elle soit, il y a toujours les pensées crues plus la pensée
c'est à moi que ça arrive.
Voilà, c'est à moi que ça arrive et c'est moi qui ai fait ça ou qui n'ai pas fait ça, etc. Et lorsque cette pensée moi est éliminée de tous les édifices histoire entre guillemets personnelle, c'est plus des histoires personnelles, c'est des histoires. Donc c'est plus facilement vu, c'est plus, ça s'effondre plus facilement. Mais ça tient encore. Il y en a qui s'effondrent toutes seules.
Alors, comment ça peut tenir si c'est vu comme étant pas personnel, et ça m'arrive à moi.
Ça m'arrive pas à moi, ça arrive.
Non, je dis, si c'est perçu comme étant plus personnel, donc ça ne m'arrive pas à moi, comment ça pourrait encore tenir?
C'est des conditionnements qui se jouent. Si depuis que je suis petit, je joue à la victime, c'est pas parce que je réalise qu'il n'y a pas de moi que le jeu victime va s'arrêter.
D'accord.
Le conditionnement va continuer à se jouer jusqu'à ce qu'il soit vu. S'il y a j'ai horreur de faire la queue dans les magasins, au début il y a je plus l'idée de faire la queue, c'est insupportable. Lorsque le je s'effondre, l'idée de faire la queue demeure. Parfois ça s'effondre, hein. Je prends un exemple un peu stupide, mais et alors dans ce cas-là, la prochaine fois je fais la queue dans un grand magasin, il y a énervement. Mais c'est pas personnel, c'est plus tenu par l'idée d'un moi. Donc si à ce moment-là, y a juste énervement et puis qu'il n'y a pas de regard, y a énervement. Voilà. Puis si à ce moment-là, le regard se pose dessus, oh tiens, ça s'énerve, c'est bizarre. Tu vois, la pensée, c'est insupportable de faire la queue dans un magasin, il devrait avoir plus de caisses et je sais pas quoi, c'est vu comme ça n'a aucun sens, ça n'a aucune espèce d'importance, ouf, ça s'effondre, et à la place, ça rigole. Et tu fais la queue dans le magasin, puis tu te mets à parler aux gens, dans la place, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? C'est des choses comme ça. Ça peut être n'importe quoi d'autre.
Oui, mais l'exemple est et que tu es clairement pour moi.
T'aimes pas faire la queue dans les grands magasins?
Alors, c'est pas ça du tout, parce que justement, ce genre de choses, pour ce genre de choses, j'ai appris. Ça m'est arrivé très tôt. C'est dans des bouchons.
Oui, c'est pareil, j'ai fait les grands magasins pour pas prendre les bouchons.
Mais ça m'aide à percevoir certaines choses.
Et voilà, puis il y a des jeux qui tiennent plus que d'autres, il y a des croyances qui tiennent plus que d'autres, il y a des domaines qui sont plus sensibles que d'autres. Quand c'est par rapport à la queue dans les grands magasins, c'est rare que ça tienne bien longtemps dès que c'est vu, quoi. Ça n'a tellement pas de sens. Mais quand c'est par rapport à l'amour du corps physique ou à la femme de mes rêves, là, ça peut coller un peu plus.
Même quand il n'y a plus l'idée d'un moi.
Ah oui.
Bah, s'il n'y a plus l'idée d'un moi, donc identifier un corps, là, j'ai du mal à... Pardon.
L'identification au corps est autre chose que la croyance en un moi. D'ailleurs, il y en a bien qui l'ont dit, qui ont dit « moi, j'ai pas peur de mourir », puis qui sentent quand même la peur de la disparition, de l'effondrement, de la mort, du moi.
Oui.
C'est pas la même chose.
Oui, non, mais par contre, je veux dire, si j'ai... Enfin, alors, finalement, je ne sais pas ce que c'est que... Non, je ne sais pas ce que c'est que de ne pas avoir... La perte de l'illusion du moi, mais à mon avis, je croyais que si j'avais plus l'illusion d'un moi, je saurais bien que je ne suis pas mon corps. Donc, quand mon corps disparaît, j'en ai...
Mais, et même si tu sais que tu n'es pas ton corps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une identification, un reste de conditionnement, de pensée autour de ça, etc. Et ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se jouer. Puis parfois, il joue de façon bizarre, avec des trucs associés d'ailleurs, tu vois. C'est pas forcément juste, il y a identification au corps. Il y a renvoi à d'autres schémas qui ne sont pas forcément vus tout de suite. Peut arriver. Mais arrête de croire que... Surtout, arrêtez de croire tout ce que vous pouvez croire à propos de l'éveil. C'est pas comme vous croyez. De toute façon. Ce sera spécifique pour vous. Puis il y a des trucs qui s'effondrent. Puis parfois, on le voit pas tout de suite. Mais un truc qui s'est effondré, c'est le temps qu'il fait. Mais il m'a fallu des mois. Il m'a fallu un an presque. Oui. Oui, le temps qu'il fait. M'a fallu plus d'un an pour me rendre compte.
S'il fait bon ou pas bon.
Oui. Avant, j'étais très affecté, c'est pas pour rien que j'habite dans le sud. Je suis très affecté par le temps qu'il faisait. Moi, je n'aimais pas quand il pleuvait, je voulais qu'il fasse beau tout le temps, etc. Et maintenant, je m'en fous complètement. Et je m'en suis rendu compte parce que quand les gens rouspétaient à cause du temps. Et pas la première fois, au bout de la troisième fois, j'ai entendu se rouspéter. Et puis que moi, je réponds, oh, moi, ça me fait rien, j'étais tout content. C'est la troisième fois, ah, tiens, mais en fait, ça a changé. Je l'avais pas réalisé.
Quand il pleut,
15 mois plus tard, tu vois. En fait,
quand il pleut, les randonneurs sont pas contents, mais les jardiniers sont ravis. Voilà.
Tous les matins, je me réveillais, je dis, oh, il pleut encore, c'est incroyable. Je ne mesurais même pas que ça avait changé. Tu vois. Qu'est-ce qu'il y a ?
Non, on est en train de parler sur le fait de simplement cette prise de conscience fait que avant tu étais affecté par le temps qu'il faisait, et là, quel que soit le temps qu'il fait, c'est ok avec ça. Et c'est simplement cette banalité-là qui fait que ça, qu'il y a eu une bascule de quelque chose. C'est ça, non ? Que c'est une des conséquences de cette réalisation.
De la réalisation, voilà. Oui. Il n'y a même pas eu besoin de voir les pensées qui tournaient autour du temps, elles se sont effondrées toutes seules. Voilà. Il y a des choses qui s'effondrent toutes seules.
Finalement, ce n'est pas forcément des choses extraordinaires
non. Qui
sont. Mais voilà, ça illustrait le fait que ça, c'est forcément banal.
C'est ordinaire.
Et ordinaire parce
c'est que c'est du quotidien.
Ça ne cristallise pas ou ça accroche pas.
Exact. Une autre chose qui a changé tout de suite, et j'ai mis une grosse semaine à m'en rendre compte, c'est quand je revenais de la plage, quand je revenais de la plage, je prenais plus le même chemin. Je passais par un chemin que j'évitais tout le temps avant, qui était un peu plus long, et où il y a tout le temps plein de monde. Mais avant, être dans un bain de foule, j'avais pas envie, donc je passais par les endroits où il y avait personne, qui en plus était plus court. Puis un beau jour, je réalise, tiens, j'ai changé de chemin, comment ça se fait que je passe par là? Puis en fait, je savais, alors moi, j'adorais rencontrer les gens, les voir, il y avait plein d'amour, tu vois, j'étais touché à tout bout de champ par les gens que je croisais, cette manifestation. Mais ça s'est fait tout seul sans que je fasse rien. Et c'est aujourd'hui, quand j'en parle, je me dis, ah, mais ça, c'était déjà de l'amour. J'ai même pas mesuré à ce moment-là.
Quoi qui était déjà de l'amour quand tu évitais
les gens? Non, de regarder, d'être là, et de regarder les gens et d'être touché. Mais c'est ordinaire. C'est banal. C'est rien de spectaculaire. Merci, bonne soirée.
Merci. Merci.